Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à vous tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le témoignage RMC ce matin d'un des manifestants, un des 200 manifestants blessés ce week-end à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où le rassemblement contre les bassines a tourné aux affrontements. Un manifestant est toujours entre la vie et la mort ce matin. Le gouvernement cherche une sortie de crise à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne tend la main aux syndicats et aux partis politiques en voulant, dit-elle, mettre de l'apaisement. Et puis on prendra des nouvelles de nos bleus en football. Ils seront en Irlande ce soir, match de qualification à l'Euro 2020.
Et puis la question que l'on se pose ce matin, c'est quelle sortie de crise? Je la poserai à 8h30 avec l'invité politique, ce sera Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Et puis je la poserai à 7h40 à la fois à un policier et un avocat des droits de l'homme. Ils seront tous les deux en face à face, ce sera à 7h40. Ce matin, un manifestant blessé de Sainte-Soline témoigne sur RMC.
Le week-end a été extrêmement tendu entre forces de l'ordre et manifestants qui protestaient contre les méga-bassines, ces immenses retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Écoutez donc le témoignage RMC d'un des 200 manifestants blessés lourdement touchés par un tir de grenade.
Une grenade, je crois que c'est une grenade de dispersion, qui est tombée à mes pieds, elle a explosé, c'est allé dans ma fesse droite. Je me suis retrouvé dans le champ en train de tousser. Là, je mets ma main sur ma fesse et puis je regarde, j'avais la main en sang, le jogging trempé de sang. Et là, je commence à m'évanouir. Et donc, j'ai un cratère, j'ai un trou plus gros qu'un œuf. Si je ne me retourne pas un quart de seconde, je pense que je suis stérile à vie, je n'ai plus de testicules. C'est un film de guerre, quoi. C'est un truc de dingue. J'étais en larmes et en colère parce que on en vient à avoir un rapport de force complètement stupide, quoi. Comme les enfants à la cour d'école. Ah, tu m'as jeté un truc, bah, je te jette un truc. Puis c'est absurde. Nous, à la base, on vient manifester pour l'eau. On parle des nappes phréatiques, on parle des agriculteurs. Comment c'est possible de mettre un dispositif policier comme ça? Il faut comprendre à un moment donné, il faut laisser. Comment ça se fait qu'ils protègent avec tant de violence? Comment ça se fait que ça se réduit à ça, l'image? Ça devrait pas être ça. C'est ça qui est terrible.
Alors le bilan du week-end est lourd. 200 blessés parmi les manifestants. Un d'entre eux toujours entre la vie et la mort ce matin. Une enquête d'ailleurs est ouverte. Les organisateurs comme la Ligue des droits de l'homme mettent en cause la responsabilité des forces de l'ordre, les accusant de brutalité. Romain Houck, pour RMC, les gendarmes se défendent. 47 blessés dans leur rang et 45 plaintes déposées pour des violences à leur encontre.
Oui, pas moins de 4000 grenades ont été tirées par les forces de l'ordre en à peine quelques heures. Le chiffre à lui seul témoigne de la violence des affrontements samedi à Sainte-Soline. Un usage immodéré de la force, dit la Ligue des droits de l'homme, mais selon Nassima Djebli, la porte-parole de la gendarmerie, l'action des forces de l'ordre était proportionnée.
La gendarmerie, elle est là pour absorber la violence et elle agit toujours en réaction. Donc on a eu un emploi de la force et un usage des armes qui a été fait justement parce que cela a été nécessaire. Quand on voit les images, elles sont parlantes d'elles-mêmes. Il y a eu une vraie déferlante de violence de la part d'éléments radicaux. L'objectif était vraiment de les mettre à distance.
D'après la préfecture des Deux-Sèvres, il y avait 6000 manifestants, dont un millier d'activistes radicaux venus pour aller à l'offensive, assure cette porte-parole. Selon le ministère de la Justice, des armes ont été saisies en amont de la manifestation. Le ministère qui fait le détail, 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 13 haches ou machettes ont été notamment retrouvées, ainsi que du matériel de protection.
Les forces de l'ordre également accusées de violence envers les manifestants contre de la réforme des retraites. La police des polices a ouvert 17 enquêtes depuis le 19 janvier et remarque un changement de nature dans les cortèges avec, je cite, des individus particulièrement radicalisés qui n'étaient pas sur les premières journées d'action. La 10e journée d'action, ce sera demain. Et en attendant, eh bien, le gouvernement cherche une sortie de crise. Emmanuel Macron va recevoir à la mi-journée, midi précisément, et Elisabeth Borne, qui a déjà donné le ton, Hélène Terzian du service politique à RMC. La première ministre dit qu'elle veut mettre de l'apaisement avec les syndicats, avec les partis politiques, et promet de ne plus utiliser le 49.3 en dehors des textes budgétaires.
C'est une opération retour au calme. Avant même de présenter sa feuille de route au président aujourd'hui, Elisabeth Borne tend la main. D'abord aux forces politiques et puis aux organisations syndicales pour les associer au prochain texte sur le travail. Avec cette promesse, pas de 49-3 en dehors des textes financiers. Apaiser, avancer, voilà les mots d'ordre de la première ministre. Un pilier de la majorité abonde. Il faut montrer qu'on tient bon et qu'on poursuit les réformes. Encore faut-il bâtir une nouvelle majorité. Consciente de l'impasse dans laquelle se trouve l'exécutif, Elisabeth Borne revient alors au texte par texte. Mais cette fois, avant d'être présentés, ils seront, je cite, « construits en amont avec les groupes de la majorité et ceux qui veulent s'engager ». Cela sera-t-il suffisant pour apaiser la colère de la rue ? Un fidèle du président espère que le pic de violence est passé.
Et les actions ne s'arrêtent pas ce matin. Des manifestants bloquent le parc logistique de Saint-Isidore à Nice, un des plus grands parcs logistiques du sud-est de la France. Il y a toujours des perturbations dans les trains. Ce matin, 4 TGV sur 5, 2 tiers des TER à la SNCF. Ce sera le cas aujourd'hui, ce sera le cas aussi demain. La grève des éboueurs va être étendue à Paris à 5 arrondissements de plus, des arrondissements gérés par le privé. Un préavis est déposé chez De Richbourg. On est repassé sous les 10 000 tonnes de déchets ce week-end dans la capitale, mais alors par endroits, ce sont des montagnes de poubelles toujours, à tel point que certains habitants, ceux qui en ont les moyens, se payent eux-mêmes un ramassage privé. Exemple, tiens, dans le 16e arrondissement de Paris avec Margot Boult.
En bas de l'immeuble où habite Pauline, le tas d'ordures atteignait
quasiment 2 mètres de hauteur.
Alors au bout de 2 semaines, elle a craqué et fait appel à une société privée.
Tous les riverains étaient bloqués dans leur passage et les rats qui commençaient à s'agglutiner sur les ordures commençaient à rentrer dans nos jardins et on avait peur qu'ils rentrent dans les caves et les appartements. Et puis si jamais un appartement prend feu, au niveau sécuritaire, les pompiers ne pouvaient plus rentrer dans l'immeuble.
Comme Pauline, de nombreux riverains exaspérés appellent Yoad Atlan et son entreprise Dr Cleaner à la rescousse pour faire venir son camion ben. Pourtant, normalement, l'entreprise fait du nettoyage de bureaux et d'appartements. Rien à voir, donc, avec les poubelles.
C'est plutôt en voyant l'actualité, déjà, il y a quelques temps, j'y avais pensé quand il y avait eu des grèves. Et je m'étais dit, pourquoi pas proposer ce service. On a beaucoup de monde qui nous appelle, surtout depuis, en fait, l'annonce de la semaine dernière où la grève a été reconduite. Là, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui nous ont appelé dès le lendemain.
Des clients qui habitent principalement l'ouest parisien, plutôt aisés.
Bien évidemment.
C'est privé, 40 euros le mètre cube.
Comptez en tout près de 1000 euros pour les piles de déchets les plus grosses à ramasser.
C'est certainement tiens, un effet de la réforme des retraites. Il y avait une élection législative partielle ce week-end en Ariège. Le résultat de l'année dernière avait été invalidé. Ça a revoté donc ce week-end. La députée sortante NUPES arrive en tête et affrontera une dissidente socialiste au second tour. Le candidat RN passe de 20 à 24% des voix par rapport à la première élection. Et la candidate macroniste dévisse complètement de 20 à 10% des voix cette fois. Les Bleus, tiens, on va revoir la France en Irlande ce soir. Les Bleus du football, on parle pas de rugby, mais bien du foot. Ils joueront à 20h45, leur deuxième match de qualification à l'Euro 2024. On les avait quittés vendredi sur une victoire 4-0 face aux Pays-Bas. On les reverra ce soir en Irlande à l'Aviva Stadium de Dublin, un stade qui sent bon le rugby. Arthur Perrault pour RMC.
Oui, quand ils jouent à l'Aviva Stadium, les Irlandais font peur. Le 15 de France en a fait les frais en février dernier face à la première nation mondiale en football. L'Irlande n'est que 48e au classement FIFA, absente du dernier Euro et des 5 dernières Coupes du Monde. Pour autant, pas question de se relâcher pour le sélectionneur Didier Deschamps.
Ça fait partie de leur ADN, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a de la qualité technique aussi. Ça sera un match différent. L'engagement, il y sera. Il ne faut pas s'attendre, en plus, avec le public ici qui pousse bien, donc... C'est le haut niveau.
Être dangereux et efficace comme face aux Pays-Bas vendredi soir, si les Bleus ont largement battu leur adversaire le plus coriace, les coéquipiers de Kylian Mbappé veulent rester prudents et conforter leur première place.
Faut pas non plus s'enflammer, mais faut pas non plus négliger ce qui s'est passé vendredi. Voilà, on a bien joué, on a bien entamé nos qualifications pour 7 euros et on va continuer. C'est pas parce qu'on a battu les Pays-Bas qu'on est qualifié. Il y a un match très important qui va être beaucoup plus compliqué que les gens peuvent penser.
Pour se rassurer, la dernière défaite de la France en Irlande remonte au 14 octobre 1981.
Et il faudra suivre Kylian Mbappé parce qu'il a une cible à abattre, c'est comme ça qu'il dit. Il veut battre atteindre les 41 buts de Michel Platini en bleu. Pour l'instant, il en est à 30.
Ah, il se fixe des petits challenges comme ça. J'aime beaucoup ce défi. Oh, il me plaît. Allez, c'était le journal de Quentin Vinet, 7h09 sur RMC.
RMC.
s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous nous livrez le témoignage poignant d'un réfugié politique.
Reza, 31 ans, a fait appel à nous parce qu'il est dans une impasse administrative afghane de la minorité des Hazaras, persécutée dans son pays. Reza a été emprisonné, torturé à l'âge de 15 ans avant de réussir à s'enfuir. Arrivé en France en 2016, il a depuis obtenu son statut de réfugié politique, un emploi stable et vit avec son jeune fils en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il aimerait obtenir la nationalité française pour remercier ce pays qui l'a accueilli et laisser enfin la peur derrière lui.
J'ai vécu toute ma vie dans la peur. J'ai pas envie de recommencer. Pendant des années, j'ai espéré que je serai un jour la situation s'améliore, qu'il y a un gouvernement avec une justice en Afghanistan, que je pourrais retourner. Mais malheureusement, là, c'est pire en pire tous les jours. Et maintenant, je me sens un peu sans un pays. Donc, j'ai envie d'avoir un pays, de vivre tranquillement, comme un humain.
Pour vivre tranquillement comme un humain, comme il dit, Reza doit déposer une demande de naturalisation. Mais depuis le 1er février, tout se fait en ligne, même pour les cas particuliers comme le sien.
Moi, j'ai quitté mon pays dans une situation très compliquée. On a tout resté derrière nous, malheureusement, et j'ai aucun document, surtout que je suis un réfugié politique, donc je peux pas faire une demande de document non plus.
Effectivement, on imagine mal un réfugié politique afghan demander aux talibans au pouvoir actuellement de lui envoyer des documents officiels. Pire, certains des papiers demandés n'existent tout simplement pas en Afghanistan, où 70% de la population ne possède pas, par exemple, de pièces d'identité.
Et Amélie, Reza ne peut pas voir quelqu'un à la préfecture pour expliquer son cas ?
Alors, officiellement, il existe des points d'accueil numériques pour accompagner la dématérialisation des démarches, mais dans les faits, c'est mission impossible pour avoir un rendez-vous. Rendez-vous qui se prend lui aussi sur Internet, avec des plages horaires de 2 heures par jour, différents selon les jours, je vous laisse imaginer. La seule personne avec qui Reza a pu parler, c'est un agent au téléphone qui lui aurait conseillé de renoncer à déposer une demande. Alors avec Johanna Chabas, on a contacté toutes les administrations compétentes sur le sujet et la préfecture de l'Essonne nous a répondu. Elle s'est engagée à fixer un rendez-vous physique à Reza pour qu'il puisse enfin déposer sa demande.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Reza, mais vous vous êtes rendu compte, Amélie, qu'il n'était pas le seul à se retrouver bloqué.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la défenseure des droits a révélé l'année dernière avoir été saisie 5000 fois en 5 ans pour des difficultés liées à la dématérialisation des demandes. Elle a d'ailleurs formulé 18 recommandations au ministère de l'Intérieur pour y remédier. Le ministère de l'Intérieur qui ne nous a pas répondu sur ce point. De son côté, l'association d'aide aux réfugiés CIMAD dénonce une disparition quasi totale de l'accompagnement des usagers étrangers dont les droits sont ainsi bafoués.
Merci Amélie. Donnez-nous des nouvelles de Reza. J'avoue que son témoignage me donnait la chair de poule. En attendant, si vous souhaitez vous aussi joindre Amélie, vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un autre témoignage saisissant à suivre, c'est celui de Jennifer Payet. Sa fille a été victime d'un proxénète pendant plusieurs années. Elle l'a sortie elle-même de cet enfer. Le procès du proxénète s'ouvre aujourd'hui. Et Jennifer témoigne, ce sera dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14, bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est vous, Jennifer Payet, bonjour. Vous êtes la maman d'Asia, c'est une jeune femme qui a aujourd'hui 18 ans, qui s'était prostituée par un homme qui comparaît devant la justice à partir d'aujourd'hui. Je me souviens très bien de votre témoignage, c'était il y a 2 ans, vous étiez venue sur RMC pour nous raconter comment vous aviez réussi à récupérer votre fille. Vous-même, vous aviez véritablement mené une enquête pour retrouver votre fille, ouais, qui avait été sous l'emprise donc d'un ancien petit ami qui était devenu son proxénète. Elle avait 14 ans, il en avait 17. Vous vous étiez fait passer pour un faux client pour réussir à rentrer à nouveau en contact avec votre fille. Le procès s'ouvre aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?
J'espère que ce procès il sera un peu jurisprudence de la problématique. Ça va être le premier. Pour moi, j'espère qu'il sera un peu l'emblème de cette problématique et qu'il permettra que le gouvernement se saisisse vraiment de ce fléau et que d'autres familles et d'autres victimes puissent avoir la chance qu'on a aujourd'hui de voir une procédure être menée à
terme.
Quand
vous dites de cette problématique et que c'est le premier, c'est que c'est vrai que c'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui. On avait eu de nombreux témoignages sur cette prostitution de mineurs très jeunes, oui, prostituées par d'autres mineurs. Au fond, vous avez le sentiment d'avoir fait le boulot aussi pour les autres. C'est-à-dire, quand je dis « fais le boulot », c'est que concrètement, c'est vraiment vous qui avez sorti votre fille de ses griffes.
Oui. Oui, oui, j'ai dû la sortir moi-même de la prostitution. J'ai dû, moi, aller la chercher, me faire passer pour un client. Je me suis retrouvée toute seule à cette époque-là. Depuis, je pense que la police travaille un petit peu plus sur le sujet, déjà. Donc, je pense que ce qu'on a fait il y a un an et demi, deux ans, avec les médias, ça a sûrement servi un peu à ce que d'autres familles ne se retrouvent pas complètement seules, mais c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui se passe.
Votre fille, elle sera là tout à l'heure pour l'ouverture du procès contre son ancien proxénète.
Oui. Oui, oui, elle a décidé de venir. C'était compliqué, c'était pas sûr, mais elle est là. Après, elle est toujours prostrée, toujours dans une situation où elle est en souffrance. Il n'y a pas eu du tout de reconstruction pour elle. C'est pas parce que lui, il est rentré en mandat de dépôt qu'elle va mieux. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer.
Elle souffre toujours aujourd'hui, votre fille. Ouais. Est-ce qu'elle est accompagnée, au-delà de vous, je veux dire ?
On a essayé des accompagnements divers, mais c'est compliqué.
C'est compliqué
pour une jeune fille de son âge de verbaliser ce qu'elle a vécu. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de résultats.
Aujourd'hui, elle a 18 ans. Mmh. Elle en avait 14 ouais. quand ça a commencé, hein, tout ce calvaire absolu. Elle est maman aujourd'hui ?
Oui, elle est maman d'un petit garçon de 2 ans.
Et elle est revenue vivre avec vous ?
Elle était revenue vivre avec moi et elle a décidé de partir à 18 ans.
D'accord.
Tellement pas reconstruite qu'elle a eu de nouveau besoin de se mettre dans une relation d'emprise avec quelqu'un de toxique. Alors certes, il n'y a pas de prostitution, mais sa construction, elle est tellement, tellement bancale que c'est difficile pour elle de s'identifier à une vie normale.
Mais elle sera là tout à l'heure, oui, elle attend quelque chose de ce procès. Est-ce qu'elle a confiance dans la justice ?
Alors confiance en la justice, non. Confiance en moi, oui, puisqu'elle attend que je prenne la parole si elle n'est pas capable de la prendre.
Mais elle espère pouvoir prendre la parole, elle.
Oui, elle espère. Elle s'est préparée, elle a écrit des choses. Si jamais elle n'arrive pas à verbaliser, il y a des choses écrites, mais je pense que c'est important pour elle que d'arriver à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu.
Depuis votre témoignage, le gouvernement a annoncé un plan national, je cite, de lutte contre la prostitution des mineurs. Mmh. Vous suivez cela attentivement, au-delà de votre cas à vous et du cas de votre fille. Est-ce que les réponses qui sont apportées vous semblent à la hauteur ?
Non. Bah non. L'annonce du plan interministériel en 2021, il y a eu beaucoup de promesses de fait. Il y avait 6 ministères de présents et il y a eu de belles paroles, de belles promesses, mais les actes derrière, ça fait 19 mois maintenant. Il y a des choses qui auraient pu être mises en place, même si la justice est longue.
Qu'est-ce qui vous a manqué le plus au moment où vous avez compris que votre fille était prostituée par ce garçon ?
À cette époque-là, mon sentiment, moi, c'était que la justice était mon obstacle à la protéger. Ça a été mon premier obstacle. Et encore aujourd'hui, avec toutes les familles de victimes que je peux accompagner par le biais de l'association, on est toujours reçu dans les commissariats dans des temporalités très longues. On nous fait attendre 6 heures en salle d'attente. On est reçu par des inspecteurs qui font des commentaires désobligeants, du genre « Ah, vous voulez une carte d'abonnement ?» Enfin, je veux dire, on ne devrait même plus entendre ce genre de propos dans les commissariats. C'est des parents qui viennent déclarer la prostitution de leurs enfants de 14 ans, de 12 ans pour certains. C'est grave.
C'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites que la justice, non seulement ne vous aidait pas, mais était carrément un obstacle. C'est-à-dire que ça vous mettait des bâtons dans les roues.
Bien sûr, moi, c'était mon obstacle. Quand je me faisais passer pour un client, que j'allais dans les brigades de secteur, que j'ai déclaré les choses... Déjà, les agents n'agissaient pas. Et en plus de ça, j'avais mon petit garçon de 7 ans ou 8 ans qui était avec moi. Et on m'a souvent fait des commentaires du genre « rentrez à Toulouse, parce que sinon on pourrait faire un signalement pour votre fils qui n'a rien à faire ici ».
On vous a menacé de vous retirer votre fils ?
Pour moi, c'était une menace, bien sûr. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous me demandez de choisir entre protéger mon fils ou laisser ma fille dans sa situation.
Donc dans le moment où vous avez remué ciel et terre... On a continué à vous laisser entendre qu'au fond c'était pas votre rôle.
Non, c'était pas mon rôle. Et puis quand j'amenais des preuves, des vidéos ou des photos, même d'actes sexuels qu'elles pouvaient avoir, à ce moment-là, leur question première c'était comment je les avais obtenues, et non pas y mettre fin. Alors que ça aurait dû être ça leur intérêt, mettre fin au service que vivait ma fille, et non savoir de quelle façon je les avais retrouvées moi. Et en plus, leur manquement de travail a fait que c'est moi qui étais obligée de les voir.
Et au final, aujourd'hui, heureusement, il y a ce procès qui s'ouvre. Vous avez retrouvé votre fille. Et vous le disiez, vous avez créé une association, Nos Ados Oubliés. Ouais. Nos Ados Oubliés, c'est votre association, puisque ce combat, maintenant, vous le menez avec d'autres parents. Merci, Jennifer Payet, en tout cas, d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Le procès du proxénète de votre fille, il s'ouvre donc tout à l'heure au tribunal de Pontoise. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et le verdict sera donc très attendu. Merci à vous. Il est 7h20 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 20 minutes, une question et deux invités. Comment assurer le maintien de l'ordre dans ce climat de haute tension? L'avocat Raphaël Kempf qui dénonce les violences policières donnera le change au syndicaliste policier Jean-Christophe Couvi qui sera dans ce studio. Débat à suivre donc à 7h40. Avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais tout de suite, l'indiscret du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
Faut-il une nouvelle loi sur la fin de vie? Ça fait partie des questions en suspens. Des députés travaillent dessus et vous avez des éléments sur leurs conclusions.
Oui, ils sont 18 députés de tous bords politiques à travailler depuis la mi-janvier pour évaluer la loi actuelle, la loi Claeys-Leonetti de 2016, mission dirigée par Olivier Falorni qui rendra ses conclusions mercredi. Et le constat partagé selon plusieurs participants, c'est que cette loi n'est pas correctement appliqué. Il pointe par exemple l'inégalité de l'accès aux soins palliatifs. Dans une vingtaine de départements, il n'y a aucune unité dédiée. La formation des soignants est aussi jugée insuffisante, sans compter le déficit d'information, la méconnaissance de la loi, dit un parlementaire. Pour lui, il faut sensibiliser. Les Français ne sont que 13% à avoir rédigé leur directive anticipée.
Et le gouvernement va devoir se positionner parce que la Convention citoyenne, elle aussi, va rendre ses travaux.
Oui, à la fin de la semaine, avec cette question, faut-il aller plus loin vers une aide médicale à mourir? Euthanasie, suicide assisté, on sait déjà que les 180 citoyens tirés au sort y sont majoritairement favorables, mais dans quelles conditions? C'est toute la question, ils travaillent dessus depuis décembre. Emmanuel Macron a promis de tous les recevoir, mais sans s'engager à suivre leur avis à la lettre. La question c'est, est-ce le bon moment pour engager ce débat? Pas sûr que ce soit le plus facile dans le contexte, pointe un parlementaire. Pour un autre, il est urgent d'attendre, et dans l'opposition, un député ironise. En ce moment, la question c'est plutôt celle de la fin de vie, mais du gouvernement.
Les indiscrets du service politique d'RMC chaque matin. Et ce matin, c'était avec Sébastien Krebs. Merci Sébastien.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 et c'est l'heure d'Emmanuel Le Chypre.
Le Chypre d'affaires.
Le Chypre d'affaires, Emmanuel. La Commission européenne et l'Allemagne se sont finalement mises d'accord sur un sursis pour les moteurs thermiques après 2035.
Oui, Berlin avait stupéfié l'Europe début mars en bloquant au dernier moment un règlement qui interdisait la vente de voitures à moteur thermique à partir de 2035 en Europe. Accord que Berlin avait approuvé en octobre et... d'un seul coup, volte-face parce que l'Allemagne a considéré que l'Europe misait trop exclusivement sur la voiture électrique au détriment d'autres technologies comme les carburants de synthèse. Et donc un compromis a été trouvé. Les véhicules équipés d'un moteur classique à combustion pourront quand même être immatriculés après 2035 à condition d'utiliser ces fameux carburants de
synthèse. Mais c'est quoi ces fameux carburants de synthèse?
Alors appelez-les comme vous voulez, hein, carburants de synthèse, e-carburant, e-fuel, ce sont des carburants qui sont encore en développement et qui seraient produits à partir d'électricité renouvelable ou bas carbone ou de CO2. Alors, ceux qui les défendent disent qu'ils ont des propriétés proches des carburants actuels, comme l'essence, le gazole, le kérosène, qu'ils fonctionnent sur les voitures anciennes, qu'ils sont propres, avantages contestés par les ONG environnementales, qui jugent cette technologie coûteuse. Un plein, ça coûte 50% de plus qu'un plein avec les carburants actuels. C'est quand même énergivore et polluant, notamment en termes de particules fines, puisque là, il n'y a aucune différence avec les carburants issus du pétrole.
Et donc, c'est une technologie qui est encore en développement. Ce sera à suivre, Emmanuel. Mais c'est une première nouvelle très importante, notamment pour les constructeurs. On essaye, hein, sachez-le, de parler avec les constructeurs, mais pour l'instant, ils sont en stand-by. Ils attendent sans doute d'en savoir un peu plus. 7h26, Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demange Pirate, le 32-16. Demange Pirate, le 32-16, il est passé par le standard. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est l'annulation de la visite du roi Charles III.
Et oui Apolline, car c'est une nouvelle semaine de tensions sociales qui démarre. Youpi ! Et effectivement, la dernière s'est quand même conclue sur l'annulation de la visite de Charles III et de Camilla, la reine consort. On s'en fout ici, on a mieux que Charles III, on a Charles 69. C'est le pseudo de Charlemagne sur prendduplaisir.com. C'est notre roi consort quand Apolline est en congé. Alors, ça fait réagir. Barthe de Saint-Barthe nous dit « On critique la monarchie anglaise. En attendant, ils sont pas moins démocratiques que notre 5e République. Le roi Charles III n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas proposer de loi. Il est juste symbolique. Il sert à rien. Exactement comme un député en marche. » Voyez, c'est exactement pareil. Kylian de Melun nous dit « En Grande-Bretagne, ils avaient Elisabeth II. Nous, on a Elisabeth 49.3. Mais c'est pas sûr qu'elle règne jusqu'à 70 ans. Déjà, si elle passe l'été, ce sera beaucoup. » Et enfin, John de Southampton est très déçu. Et il nous dit « C'est dommage que le Warshall n'ait pas pu défiler dans Paris. J'adore le France, le Tour Eiffel, le Baguette, la Super Moscato Show, RMC, Apple in Morning, Apple in from Molly Sherbus. » Gerald, bah oui, ça se prononce comme ça, c'est à l'anglaise, hein. Geraldine of the Marie, Emmanuel from Cyprus, Marshall on Trichot, The Big Mouth, Charles Morning, Estelle Noon, Groten Goes in Flame, and so on.
And so on.
Je reviens d'un voyage dans votre capitale et Charleroi aurait adoré. L'odeur de votre ville depuis la grève des éboueurs, c'est fantastique, ça nous rappelle notre cuisine anglaise. Eh ben, il y en a au moins un qui sera content s'il revient.
Allez, à tout à l'heure. Déjà, il y en a un qui revient, c'est à 8h20 et c'est Arnaud de Manche tous les matins. Il est 7h28, à tout de suite pour la météo de journal. Et le journal de 7h30 sur RMC, c'est avec Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, les forces de l'ordre qui seront déployées commencent à fatiguer. La fin du ticket de caisse, ça sera pour plus tard. Il reste nécessaire aux consommateurs en période d'inflation pour contrôler leurs achats. Et puis un Français qui remporte la classique Gand-Wevelgem, c'est du cyclisme et ça n'était pas arrivé depuis 26 ans.
Emmanuel Macron reçoit la première ministre Elisabeth Borne ce midi à l'Élysée.
Ils seront rejoints ensuite par les cadres de la majorité, chefs de parti, chefs de groupe à l'Assemblée nationale et puis par les ministres également concernés par le texte. La première ministre qui l'a fait savoir hier, elle veut apaiser. Elle a prévu de recevoir éventuellement les organisations syndicales et patronales dans la semaine du 10 avril. Et elle a avancé une promesse hier, ne plus avoir de recours au 49.3 en dehors des textes budgétaires. Un apaisement qui peut paraître nécessaire, en effet, tant le climat semble tendu en ce moment sur le dossier des retraites. Et après également le rassemblement à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. Les forces de l'ordre commencent clairement à fatiguer. Lucille Pascanet.
Après 9 journées de mobilisation contre la réforme des retraites et ce week-end très compliqué à Sainte-Soline, la fatigue commence à se faire sentir chez les forces de l'ordre. Jean-Paul Nascimento est secrétaire national CRS UNSA Police.
Ça tire un peu. On a certaines compagnies de CRS qui font énormément d'heures. Par exemple, la semaine dernière, on a 2 ou 3 compagnies qui ont fait plus de 24 heures de service d'affilée. Il va falloir trouver des adaptations si cela continue à perdurer.
D'autant que les agents ressentent que la violence monte encore d'un cran. Certains sont inquiets pour les prochaines manifestations, explique Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police.
Quand vous voyez le nombre de blessés, c'est quand même inquiétant. Quand vous savez que ça n'a pas tendance à se calmer, aujourd'hui, chaque grande mobilisation, on retrouve des images qu'on ne voulait plus voir, qui nous rappellent le mouvement des Gilets jaunes qui s'était radicalisé pendant un moment. On voit des fonctionnaires de police et de gendarmerie qui, en effet, commencent un peu à être fatigués et qui, en fait, appréhendent aussi l'événement parce qu'ils savent que ça va être dur.
Demain, le dispositif de maintien de l'ordre devrait être équivalent à la semaine dernière. 5000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris.
Rappelons qu'un manifestant est toujours entre la vie et la mort après le rassemblement à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. Rassemblement, violents affrontements au cours de ce rassemblement entre les forces de l'ordre et des manifestants qui sont opposés à la construction d'une bassine, ce réservoir destiné à l'irrigation agricole qui stocke de l'eau puisée dans les nappes phréatiques. Des forces de l'ordre qui sont en ce moment au centre des critiques, accusations de violence envers les manifestants notamment. 17 enquêtes ont été ouvertes par la police des polices depuis le 19 janvier dernier. 22e jour de grève des éboueurs. Aujourd'hui à Paris, une grève qui s'étend à 5 nouveaux arrondissements. Préavis de grève pour une durée indéterminée dans les 1er, 2e, 4e, 10e et 18e arrondissements de la capitale qui étaient jusque-là épargnés. Malgré les réquisitions des éboueurs lancées par la préfecture, près de 7800 tonnes de déchets n'ont pas encore été ramassées dans les rues. À quand le retour à la normale? Les précisions de Victor Joannin.
Les déchets accumulés dans les rues de Paris sont repassés sous le seuil symbolique des 10 000 tonnes ce week-end, grâce à la réouverture des incinérateurs, aux réquisitions et à la fin du mouvement dans le 15e arrondissement. Mais cette embellie est fragile, car la grève des éboueurs devrait être reconduite aujourd'hui et s'étend même dans 5 nouveaux arrondissements. Par ailleurs, la collecte des ordures reprend progressivement à Marseille, mais reste très perturbée à Nantes, Angers, Poitiers, Guingamp et au Havre, où les éboueurs ont reconduit le mouvement jusqu'à vendredi. Le retour à la normale semble donc encore loin. Partout, la détermination des grévistes est grande, assure une responsable de la CGT. Une détermination renforcée à Paris par les réquisitions des éboueurs, puisque depuis qu'elles ont été décidées, le taux de grévistes est passé de 6 à 25% selon la mairie.
Et concernant les transports, le trafic sera fortement perturbé demain pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Voici ce qu'annonce la SNCF. Des trains qui sont annulés ou retardés dès aujourd'hui. Faites attention, 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 sont sur les rails. La fin du ticket de caisse papier, de nouveau repoussée. La fin de l'impression systématique de ce ticket de caisse était prévue à partir de samedi prochain. Elle a été finalement décalée, a indiqué hier le ministère de l'économie et des finances. Ce sont des associations de consommateurs qui en ont fait la demande, mettant en avant la nécessité de contrôler au plus près ces achats dans la période actuelle de forte inflation. Reportage RMC de Lionel Dian à Marseille.
La fin du ticket de caisse et les 25 millions d'arbres que cela pourrait préserver chaque année, Najwa est totalement pour.
Abattre les arbres à chaque fois et on voit tous les papiers qui traînent par terre et les pollutions et tout, franchement ça arrange pas la ville ni la planète.
Kelly, elle, y tient à son ticket de caisse en papier, surtout en ce moment.
Il y a des fois des erreurs de code barre et par rapport au prix, on est obligé de vérifier tout le temps parce qu'on est en crise, il faut dire ce qu'il en est.
Pascal aussi préfère avoir son addition au magasin plutôt qu'un ticket envoyé par mail.
Ça me fait beaucoup des mails après, avec tout ce qu'on achète. Faut les trouver, faut les trier. Là, le ticket de caisse, on l'a devant nous, on a l'article, point barre.
Des arguments que l'association UFC Que Choisir défend aussi. Odile Le Turc, sa représentante à Marseille, ne voit pas non plus d'un bon œil que le client soit obligé de demander son ticket.
Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui osent peut-être pas demander leur ticket dans ces temps quand même assez difficiles où le consommateur se bat un petit peu contre les prix pour arriver à remplir son panier.
L'association UFC Que Choisir qui se félicite que le gouvernement ait au moins accordé un délai au ticket de caisse délivré systématiquement.
Et la fin du ticket de caisse qui est repoussé, ça vous fait réagir? Venez nous dire si vous y tenez vraiment au ticket de caisse ou pas. Je vous attends au 32-16.
RMC 7h36, les sports, le football. L'équipe de France se déplace ce soir en Irlande pour la suite des qualifications de l'Euro 2024. Trois jours après la victoire 4-0 contre les Pays-Bas, les Bleus doivent confirmer cette fois à l'extérieur. Irlande-France, coup d'envoi 20h45. Match à suivre évidemment en direct sur RMC. Et puis en cyclisme, le Français Christophe Laporte a remporté hier la classique Gand-Wevelgem en Belgique. C'est l'une des courses les plus importantes de l'année. Le dernier vainqueur tricolore, Philippe Gaumont, s'était imposé en 1997. Cela remonte à 26 ans donc. Une victoire que Christophe Laporte doit surtout à la générosité de son coéquipier belge, le numéro 2 mondial, Wout van Aert. Les précisions d'Arnaud Souk.
Oui, quand à 50 km de l'arrivée, Laporte et Van Aert, coéquipiers chez Jumbo-Visma, parviennent à s'extirper du groupe des favoris à la pédale. On se dit que si le tandem va au bout, la victoire sera logiquement pour le leader belge.
Wout était clairement plus fort que moi, j'ai pas besoin de le cacher.
Sauf que cela ne s'est pas passé exactement comme cela, raconté hier Christophe Laporte, les yeux rougis par l'émotion.
On n'a pas trop pu parler jusqu'à 10 km de l'arrivée, on n'a pas eu besoin de beaucoup discuter. Wout m'a demandé si je voulais gagner aujourd'hui avec un sourire. Bien sûr, il connaissait la réponse et on a fait ça comme ça. C'est comme un cadeau, je suis vraiment reconnaissant envers lui. C'est une de mes plus belles victoires, voire la plus belle victoire de ma carrière, donc je suis très heureux.
Un cadeau immense de la part de Van Aert, coureur au palmarès long comme le bras, mais rien de plus logique, expliqué hier le Belge, stupéfait malgré tout d'un scénario de course aussi favorable.
C'est fou, c'est aussi pour nous difficile de croire, c'est vrai. C'est un bon ami de moi, on a fait le Tour de France l'année passée ensemble, qui était vraiment spécial pour nous deux. C'est une victoire de nous deux, mais c'était le moment pour Christophe de croiser les lignes et d'arriver en première place.
En offrant sur un plateau la victoire hier à Laporte, Van Aert s'est aussi assuré de son soutien inconditionnel dimanche prochain pour le mythique Tour des Flandres.
Et puis les courses, Rémi, le Quintet Plus, c'est sur l'hippodrome de Fontainebleau, 13h50.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori numéro 3, Otrasno, Outsider le numéro 8, Tarida le 3, le 8. Course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte, 13h50.
C'était le journal de Rémi Inc. Il est 7h38.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
De plus en plus de violence dans les manifestations. Comment faire pour assurer le maintien de l'ordre et éviter les débordements, quels qu'ils soient? On en parle dans un instant avec vous, Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Vous êtes du syndicat Unité SGP Police FO. On se retrouve dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Mais cette question du maintien de l'ordre vous fait déjà réagir nombreux sur l'appli RMC avec Direct Studio. On lit vos messages en direct. Julien nous écrit: on ne va quand même pas s'apitoyer sur le sort de manifestants radicaux, politisés, qui se rendent à une manif en théorie interdite par la préfecture. Et les élus qui sont à ces manifs doivent arrêter de couvrir les casseurs. Voilà ce que dit Julien. Stéphane lui nous dit: je ne comprends pas comment on peut arriver à un tel niveau de violence pour de malheureuses bassines. Il faut dire la vérité, certains viennent uniquement pour la violence, ils n'ont rien à voir avec le combat écolo. Et puis j'ai aussi Olivier qui nous écrit: évidemment qu'il faut dénoncer toute forme de violence, mais je suis désolé, quand on voit le comportement
comportement de certains policiers qui ont l'air de juste vouloir en découdre en marge des manifestations. Il ne faut pas s'étonner que certains manifestants pètent les plombs. La police est là pour apaiser, pas pour provoquer des tensions. Voilà ce qu'écrit Olivier. Et vous, qu'en dites-vous? Tiens, des violences de ce week-end à Sainte-Soline, mais aussi en marge des manifestations contre la réforme des retraites, ça vous fait réagir? Eh bien, vous connaissez le chemin. Pour prendre la parole en toute liberté sur RMC, ça se passe au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour dans ce studio, c'est vous, Jean-Christophe Couvy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes policier, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Je vais revenir avec vous dans un instant sur la situation d'extrême violence et les explosions qui ont eu lieu non seulement autour des manifestations, mais aussi ce week-end à Sainte-Soline. Et dans un instant, on sera également en ligne avec Raphaël Kempf, avocat, auteur du livre Les violences judiciaires. D'abord avec vous, Jean-Christophe Couvy, votre témoignage au fond de policier. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce qu'il y a un problème, y compris dans vos rangs, quand on voit les explosions de violence et on se demande un peu qui commence au fond depuis l'usage du 49-3? Il y a eu des violences à la fin des différentes manifestations, il y a eu des violences quasiment tous les soirs dans un grand nombre de villes, et puis il y a eu évidemment Sainte-Soline ce week-end avec des affrontements quasiment comme un théâtre de guerre entre d'un côté les manifestants, de l'autre les forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes dépassé aujourd'hui, voire même est-ce qu'il y a une forme de culpabilité des forces de l'ordre?
Alors on va tout remettre dans l'ordre, c'est-à-dire que effectivement on voit une montée des violences contre les forces de l'ordre, mais aussi j'allais dire contre l'institution et contre la République quelque part. Les manifestations contre la réforme des retraites sont très très bien passées. Il y a toujours eu des petits débordements en marge des manifestations, toujours provoquées, j'allais dire par les mêmes. Hein, c'est les Black Blocs, les radicalisés, les pseudo-révolutionnaires. Et donc effectivement.
Mais globalement, on peut dire que pendant 2 mois c'était calme.
C'était calme, même si effectivement les forces de l'ordre étaient très mobilisés, notamment parce que on avait des manifestations sur tout le territoire. C'est la première fois qu'on voit autant de manifestations
dans
d'ailleurs pacifiques dans des villes moyennes.
Ça s'est
très très bien passé. Et le job des policiers, justement, c'est de faire que ça se passe très bien. Sauf que là, effectivement, le 49-3 a déchaîné les passions. On a bien vu que d'un seul coup, on a basculé dans une hyper-violence. Et c'est les jeunes, j'allais dire, sont rentrés dans la danse. Et c'est ça aussi qui est surprenant par rapport au début en fait des manifestations, c'est que la jeunesse est dans la rue. Et donc c'est toujours difficile de sortir d'une action comme aujourd'hui. On ne connaît pas l'issue parce que quand les jeunes sont dans la rue, en principe, ils déchaînent les passions. Vous savez, les jeunes, ils vivent dans l'immédiateté. Et donc pour eux, c'est une façon aussi, voilà, d'exprimer leur colère.
Donc, Jean-Christophe Couvy, vous avez dit, ils veulent en découdre aussi avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire que vous voyez comme cible de ces actions?
Oui, parce qu'à travers nous, on représente l'État. Et donc forcément, on est, j'allais dire, un mur entre la révolution, parce qu'il y a c'est des révolutionnaires aussi, et l'État. Et donc nous sommes des hommes à abattre, parce que forcément,
mais
nous
dégénons. À l'inverse, quand vous regardez ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, 6000 manifestants, alors je prends les chiffres officiels, hein, 6000 manifestants du côté que dénombre la préfecture. 6000 manifestants, 3000 personnes des forces de l'ordre. Est-ce que c'est pas disproportionné? Les manifestants eux-mêmes disent, au fond, nous nous sommes retrouvés visés, ce sont les forces de l'ordre qui ont commencé.
Il y a quelques mois, il y avait des forces de police qui étaient là, de gendarmerie, qui avaient été d'ailleurs prises à partie très violemment. Et en fait, là, on a le ministère a gonflé, j'allais dire, le dispositif, parce qu'il y a aussi un système de relève, c'est-à-dire que des groupements de gendarmerie ou chez nous les CRS peuvent pas rester 24 heures sur un front. Et donc, on est obligé de les relever, on est obligé déjà.
Mais il y a des observateurs, notamment de la Ligue des droits de l'homme, qui étaient présents sur place, qui dénoncent une stratégie des gendarmes qui aurait, je cite, donné la priorité à la sécurisation du site plutôt que l'accès pour des personnels soignants et qui aurait donc retardé l'arrivée des soignants.
Alors ça, c'est peut-être une enquête aussi qui est en cours. Hein. Moi, vous savez, quand on fait partie des forces de l'ordre, soit gendarmes ou policiers, on a vraiment, pour nous, le droit humain est, je veux dire, c'est la base, c'est un respect, le respect du droit humain. Et je vois vraiment pas volontairement, au cas où, mes collègues refuser l'accès aux soins. En revanche, c'est très compliqué quand vous avez une des scènes d'affrontement comme on a vu là. Moi, j'aime bien regarder les ONG, effectivement, la Ligue des droits de l'homme fixe toujours les policiers, jamais les manifestants. Je pense que les manifestants sont arrivés quand même armés. Ils avaient aussi des cocktails Molotov, ils avaient des boules de pétanque, ils avaient tout du parfait petit terroriste pour venir. Et regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes. Des blessés chez les forces de l'ordre, des bus brûlés. Et on voit bien
homme qui est entre la vie et la mort.
Bien sûr. Alors après, dans le maintien de l'ordre, en fait, on essaie de garder une distance toujours entre la mani- les les manifestants, moi j'appelle d'ailleurs les émeutiers parce que c'est pas forcément des manifestants, vu que la manifestation déjà était interdite. Donc déjà sur le départ, je veux dire, il y a des gens qui viennent sur un terrain qui ne leur appartient pas, et en plus sur une manifestation qui est interdite. Donc déjà, je vais voir aussi si la justice s'empare de ça et savoir si les organisateurs de la manifestation seront condamnés, puisque forcément c'est un délit.
Et je voudrais que Raphaël Kempf puisse intervenir. Bonjour maître. Vous êtes avocat. Vous avez écrit ce livre qui s'appelle Les violences judiciaires. Avocat, et justement, vous dénoncez régulièrement ce que vous appelez des violences policières. Il y a des dépôts de plainte à l'IGPN qui se sont accélérés depuis le 16 mars dernier, depuis le jour du 49-3. Pour vous, le 49-3 a été un point de bascule et depuis, il y a de nombreuses plaintes de la part des manifestants contre les forces de police ?
Alors, manifestement, depuis le jeudi 16 mars et le 49-3, nous observons une escalade dans la répression de la part du préfet de police Laurent Nunez et de la procureure de la République de Paris. Escalade où, sur le terrain, nous voyons des policiers, des policières, malheureusement, donner régulièrement des coups de matraque absolument gratuitement à des personnes qui parfois sont de simples passants et qui ne participent même pas à une manifestation. Et même en participant à une manifestation, on n'a pas à se prendre des coups de matraque sur la figure. Il y a par ailleurs eu, depuis 8 jours, 940 interpellations de l'aveu même du préfet de police Laurent Nunez. Et l'immense majorité des personnes arrêtées l'ont été de façon arbitraire et injustifiée, ont été remises en liberté. C'est pour ça que lorsque Laurent Nunez dit qu'il n'y a pas d'interpellation injustifiée, soit il se trompe et il ne connaît pas ce qu'il se passe dans ses services, soit il ment, et dans ce cas-là, c'est extrêmement problématique. Donc une escalade de la violence et de la répression de la part du parquet et du préfet. J'aimerais réagir, si vous me le permettez, Apolline, au propos de M. Couvi qui vient de parler à l'instant, d'employer à l'instant le terme de terroriste.
Oui.
Ils ont
l'arsenal, le parfait arsenal du petit terroriste.
Et je trouve que cela est absolument indécent pour la mémoire des victimes d'actes de terrorisme et indécent pour comparer des opposants politiques qui font le choix d'aller manifester. Je veux dire, à un moment donné, les termes ont un sens. On ne peut pas dire n'importe quoi à votre antenne, madame de Malherbe. Je veux dire, on a, du côté de Monsieur Couvi, des propos sur les jeunes qui seraient en colère juste parce qu'ils sont jeunes. Je veux dire, on est au degré zéro de l'analyse sociologique. On parle d'ultra-radicalisés sans l'étayer par aucun élément, et on parle de terrorisme. Non, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Il y a, du côté de la police, dans ce pays, une escalade de la répression, avec des moyens considérables, des dépenses d'équipement qui ont été multipliées par 3 en 10 ans, des armes de guerre qui sont utilisées par les policiers et les policières contre des manifestants, comme on a pu le voir à Sainte-Soline. Un homme, vous l'avez dit, Apolline de Malherbe, entre la vie et la mort, mais aussi dans le cadre de la manifestation contre la réforme des retraites. Un homme qui a perdu un œil à Paris la semaine dernière et une femme qui a été amputée d'un doigt.
Avec évidemment une inquiétude particulière sur la journée de demain. Raphaël Kempf, je voudrais que Jean-Christophe Couvi puisse vous répondre. Jean-Christophe Couvi.
Oui, bah écoutez, je suis désolé, mais quand on attaque des gendarmes à coups de cocktail Molotov, j'ai des témoignages aussi des gendarmes qui disent qu'ils ont brûlé 4 fois. C'est-à-dire qu'ils ont dû éteindre les flammes qui les brûlaient, qui léchaient leur corps. Et quand on voit vraiment des colonnes d'assaut, moi j'ai vu des colonnes d'assaut partir vers la bassine avec une belle organisation, au-dessus il y avait quand même des boucliers, il y avait des gens qui étaient armés et qui ont lapidé les forces de l'ordre. Alors je suis désolé, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est pas des manifestations monsieur, c'est vraiment des gens qui viennent en écoute, c'est des ultra-radicaux. Maintenant je fais la différence entre les autres personnes qui étaient là, manifestaient pacifiquement, mais le problème c'est que quand on fait une manifestation pacifique et qu'on protège quelque part en tant que bouclier humain des personnes très radicalisées qui viennent juste tuer du flic, ben moi ça me dérange.
Est-ce que, je sais pas si vous rendez compte de l'absurdité qui consiste à déployer 3000 policiers surarmés, équipés d'armes de guerre et parfois de motos quad.
En l'occurrence, tirent, gendarmes d'ailleurs.
Voilà, dans des champs. Pour protéger un cratère, pour protéger un trou.
Mais ce qui est évident,
rien à détruire.
Ce qui est évident, et ce matin, on l'entend à nouveau avec vous deux, hein, Raphaël Kempf, avocat, Jean-Christophe Couvi, policier, c'est qu'au fond, on a quand même le sentiment depuis quelques jours que chacun se renvoie la responsabilité. Au milieu, il y a une extrême violence. Au milieu, il y a des gens qui se retrouvent non seulement blessés, mais parfois même, comme c'est le cas en ce moment, entre la vie et la mort. Et on se demande, j'avoue, comment est-ce que tout cela va se terminer. La parole, elle sera aussi aux politiques tout à l'heure, puisqu'à 8h30, je recevrai le porte-parole du gouvernement. Raphaël Kempf, je renvoie sur votre livre « Violence judiciaire » et Jean-Christophe Couvi, merci aussi à vous d'avoir essayé de faire aussi l'apaisement, mais c'est quand même très compliqué avec des mots qui sont sortis de part et d'autre pour cibler ses opposants. Jean-Christophe Couvy, vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Le problème, c'est aussi demain, puisque je le rappelle, il y a à nouveau une journée de mobilisation. Et comment se passera-t-elle? Merci à tous les deux. 7h51 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Et dans un instant. Et dans un instant, il y aura Nicolas Poincaré qui reviendra sur le congrès de la CGT qui s'ouvre aujourd'hui. Quel sera le successeur de Philippe Martinez? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Charles, la plateforme Salto ferme ses portes.
Oui, à peine plus de 2 années d'existence et puis s'en va. Pour rappel, Salto, c'était le Netflix à la française. C'est comme ça qu'on nous a présenté cette plateforme française de vidéos qui devait donc concurrencer les géants américains. 3 chaînes, 3 groupes, un TF1, France Télé et M6, avaient uni leurs forces et mis leurs programmes en commun sur Salto. On y trouvait donc des séries, des feuilletons, des téléfilms, parfois disponibles sur la plateforme plusieurs jours avant leur diffusion gratuite à la télé. Mais Salto n'a séduit que 800 000 abonnés, pas suffisant pour être rentable et se faire une place au milieu des Disney+, Amazon et autres Netflix. À partir d'aujourd'hui, Salto ne sera donc plus accessible. Pas de panique pour les abonnés qui seront intégralement remboursés au prorata des jours d'abonnement qui leur restaient. Et chaque chaîne va désormais récupérer ses propres programmes sur sa propre appli de replay. Ce sera gratuit pour France Télé, alors qu'M6 et TF1 vont proposer des offres premium payantes. Ça s'appellera 6 Play Max, My TF1 Max. Il faudra payer quelques euros par mois pour accéder au programme. Et puis tiens, si vous aimez les programmes en replay, en streaming et gratuit, on ne peut que vous recommander l'appli RMC BFM Play où vous retrouverez tous les programmes d'RMC Story, d'RMC Découverte ou encore des chaînes BFM.
RMC, Apolline Matin.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, 7h55.
Expliquez-nous.
Alors Nicolas, expliquez-nous, le congrès de la CGT s'ouvre aujourd'hui, il va désigner un successeur à Philippe Martinez et pour la première fois c'est une femme qui pourrait être désignée à la tête du syndicat.
Oui, une femme mais on ne sait pas encore laquelle puisqu'elles sont deux à pouvoir espérer prendre la tête de ce vieux syndicat qui a longtemps été communiste, Marie Buisson, candidate de la direction sortante, ou bien Céline Verzelletti dont le nom pourrait sortir du chapeau si la candidature officielle était rejetée. Marie Buisson, c'est la patronne de la branche éducation, elle a 55 ans, c'est une prof de français qui a pris sa carte de la CGT le jour même de son entrée à l'éducation nationale. Elle est écologiste et féministe. Elle est une des fondatrices du mouvement qui s'appelle Plus Jamais Ça et qui fait le lien entre les écologistes et le monde syndical. Et c'est à ce titre qu'elle est signataire d'un texte qui prône la sortie du nucléaire.
Ce qui lui vaut des hostilités au sein du syndicat.
Oui, parce que traditionnellement, la CGT est très puissante au sein d'EDF et la branche énergie du syndicat défend la filière nucléaire française. Elle est même opposée à la fermeture des centrales à charbon au nom de la défense de l'emploi. On ne peut pas dire que jusqu'à présent, l'écologie était au centre des préoccupations de la CGT. C'est donc le premier handicap de Marie Buisson. Le second, c'est qu'elle vient du secteur de l'éducation nationale, un univers où la CGT n'est pas majoritaire. Le troisième, c'est qu'elle est peu connue du grand public et que ce n'est pas une grande oratrice. Enfin, le dernier handicap, c'est qu'elle a été choisie par Philippe Martinez en dehors de tout processus démocratique. Tout cela fait que son élection n'est donc pas acquise.
D'où la possibilité de voir émerger une autre femme, Céline Verzelletti.
Oui, Verzelletti.
Verzelletti.
Ce qui veut dire que c'est une gardienne de prison qui deviendrait la patronne de l'ancien premier syndicat de France, puisque c'est son métier. Elle a été surveillante au Beaumetz et à Marseille, puis dans les prisons de la région parisienne. Elle dépend encore aujourd'hui de l'administration pénitentiaire, même si elle en est depuis longtemps détachée pour exercer ses mandats syndicaux. Elle a 54 ans. Ses deux parents étaient eux-mêmes des militants communistes et des adhérents de la CGT. Elle a grandi à Tarbes, une ville ouvrière dans les Pyrénées, dont elle a gardé l'accent. Elle affirme aujourd'hui ne pas être candidate à la direction du parti, mais elle se dit prête au cas où, si jamais on devait avoir besoin d'elle.
Et comment ça va se dérouler le scrutin?
Alors, j'espère que vous ne me poseriez pas la question, parce que
c'est très compliqué, j'ai l'impression.
Horriblement compliqué, mais j'essaie de vous le faire simple. Le congrès va durer une semaine à Clermont-Ferrand. 1 millier de délégués sont réunis. Demain, ils éliront une commission exécutive d'une 50aine de personnes qui devra à ce moment-là choisir un bureau de 10 personnes. Puis la commission devra se prononcer à huis clos sur un nom qui leur sera proposé pour devenir numéro 1. Et ce nom, eh bien, ça devrait être celui de Marie Buisson. Mais le lendemain, le Parlement du parti devra valider ce choix. Et c'est à ce moment-là que ça pourrait basculer, d'autant qu'il y a plusieurs façons de voter, en tenant compte ou pas du poids des branches et des fédérations, soit à main levée, soit à bulletin secret. Et ça, ça ne donnerait pas le même résultat. Bref, si la candidature officielle de Marie Buisson devait être mise en minorité, eh bien, à ce moment-là, effectivement, Céline Verzelati pourrait s'imposer, à moins qu'un homme vienne déjouer tous les pronostics, puisque Olivier Matteux, le patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône, ne cache pas ses ambitions. Jusqu'à présent, il était considéré comme trop radical pour avoir une chance de s'imposer, mais sauf que le contexte aussi s'est radicalisé, si bien que si la CGT devait se choisir un guerrier comme chef, eh bien, ça pourrait être lui.
Et tout cela dans un contexte de manifestation, c'est extrêmement complexe pour la CGT. Merci pour vos explications, Nicolas. Il est 7h58. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.